La vie à Pétersbourg, deuxième partie. 11 mai 1847. Savez-vous, messieurs, quelle importance a dans notre grande capitale un homme qui a toujours en dépôt chez lui une nouvelle que personne encore ne connaît et qui, en plus, possède le talent de la raconter agréablement? Selon moi, c'est presque un grand homme. Et, indiscutablement, mieux vaut avoir en dépôt une nouvelle que la fortune. Quand un pétersbourgeois apprend une nouvelle rare et court la raconter, par avance il savoure une volupté spirituelle. Sa voix devient faible et tremble de plaisir. Son cœur baigne dans le beurre. À ce moment, tant qu'il n'a pas encore communiqué sa nouvelle, pendant qu'il court chez des amis à travers la perspective Nevski, il est délivré d'un coup de tous ses soucis. Même, on l'a observé, il se guérit des maladies les plus invétérées. Et, par comble, il pardonne à ses ennemis. Il est doux et grand. Et pourquoi? Parce que le pétersbourgeois, en un moment aussi solennel, prend conscience de sa dignité, de son importance, et se rend justice. C'est peu. Vous et moi connaissons sûrement beaucoup de gens auxquels nous interdirions même notre antichambre, s'il n'y avait pas de vrais soucis d'affaires. S'il venait faire visite à notre valet, cet homme comprend lui-même qu'il est coupable, et ressemble beaucoup au chien, qui, la queue et les oreilles basses, attend les événements. Mais soudain, voilà que ce monsieur sonne chez vous d'une façon hardie, passe sans se gêner devant le valet étonné, et, l'air rayonnant, vous tend la main. Et aussitôt vous reconnaissez qu'il en a le droit, qu'il a une nouvelle, ou un potin, ou quelque chose de très agréable à dire. Sans cette circonstance, un pareil individu n'oserait pas venir chez vous. Alors, non sans plaisir, vous l'écoutez, bien que peut-être vous ne ressembliez nullement à cette respectable dame du monde qui n'aimait à entendre aucune nouvelle, mais qui écoutait avec plaisir cette anecdote. Comment une femme qui enseignait l'anglais à ses enfants avait fouetté son mari. Oui, messieurs, le potin a bon goût. J'ai souvent pensé que si, chez nous, à Pétersbourg, quelqu'un avait le talent de découvrir quelque chose de nouveau pour l'agrément de la vie, quelque chose n'existant encore dans aucun pays du monde, ce quelqu'un pourrait gagner des sommes formidables. Il y a des maîtres. C'est extraordinaire comme la nature humaine est bâtie. Soudain, et pas du tout par lâcheté, l'homme cesse d'être homme et devient un petit insecte, un simple petit moucheron. Son visage se transforme et se recouvre, non pas d'humidité, mais d'une couleur particulièrement brillante. Sa taille, soudain, devient beaucoup plus petite que la vôtre. L'indépendance disparaît totalement. Il vous regarde dans les yeux comme un chien qui attend un morceau. C'est peu. Bien qu'il ait un bon habit, il se couche par terre, agite joyeusement la queue, crie, lèche, ne mange pas avant qu'on ne l'y autorise. Et ce qui est le plus drôle, le plus agréable, c'est qu'avec cela, il ne perd point sa dignité. Il la conserve intacte, même à vos propres yeux. Tout cela se passe de la façon la plus naturelle. Sans doute vous êtes un Régulus d'honnêteté, au moins un Aristide. En un mot, vous mourriez pour la vérité. Vous transpercez du regard cet homme. Lui, de son côté, est convaincu qu'il est tout à fait transparent. Et tout marche comme sur des roulettes. Vous trouvez cela bien, et l'homme ne perd pas sa dignité. Et tout cela parce qu'il vous loue, messieurs. Sans doute, ce n'est pas bien qu'il vous loue en face. C'est vilain. Cependant, vous remarquez que l'homme vous loue d'une façon intelligente, parce qu'il indique précisément ce que vous aimez dans votre personne. Alors, il a de l'esprit, du tact, il connaît même votre cœur. car il reconnaît en vous ce que le monde peut-être vous refuse, bien entendu injustement et par envie. Comment savoir ? Dites-vous enfin. Peut-être n'est-ce point un flagorneur, mais simplement un homme trop naïf et sincère. Enfin, pourquoi rejeter l'homme du premier coup ? Et un homme pareil reçoit tout ce qu'il voulait recevoir, comme le juif qui supplie le maître de ne pas acheter sa marchandise. Pourquoi acheter ? Que monsieur regarde seulement dans la besace, ne serait-ce que pour cracher sur la marchandise du juif et s'en aller. Le juif déroule sa marchandise et le monsieur achète tout ce que le juif désire lui vendre. Non, l'homme n'agit pas du tout par l'acheter. Pourquoi de grands mots ? Il n'a pas du tout l'âme basse. Il a une âme intelligente, charmante, l'âme de la société, l'âme qui désire recevoir, l'âme mondaine, qui, il est vrai, prend les devants, mais tout de même une âme. Je ne dis pas chez tous, mais chez beaucoup. C'est pourquoi tout cela est encore bien, parce que sans une âme pareille, tous seraient morts d'ennui ou se mangeraient entre eux. La double face, l'hypocrisie, le masque, c'est vilain, d'accord. Mais si en ce moment tous se montraient tels qu'ils sont, je jure que ce serait pire. Toutes ces réflexions me venaient à l'esprit alors que Pétersbourg allait se promener au jardin d'été et sur la perspective Nevski pour montrer ses costumes neufs de printemps. Mon Dieu, rien que sur les rencontres de la perspective Nevski, on pourrait écrire un livre entier. Mais vous connaissez tout cela si bien, messieurs, de par vos expériences agréables, qu'à mon avis, il n'est point besoin d'écrire ce livre. Une autre idée m'est venue. C'est qu'à Pétersbourg, on dépense énormément. Il serait curieux de savoir s'il y a beaucoup de gens à Pétersbourg qui ont suffisamment d'argent pour tout. C'est-à-dire des gens tout à fait à leur aise, comme on dit. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je me suis toujours représenté Pétersbourg comme le Benjamin gâté d'un père très respectable. Homme du temps jadis, riche, large, très raisonnable et très débonnaire. Le père s'est enfin retiré des affaires, s'est installé à la campagne, tout heureux de pouvoir porter un veston de Nankin sans violer les convenances. Mais le fils est resté dans le monde. Le fils doit apprendre toutes les sciences. Il doit être un jeune Européen. Et le père, bien qu'il ne connaisse l'instruction que par ouï-dire, désire vivement que son fils soit le jeune homme le plus instruit. Le fils saisit immédiatement les choses les plus superficielles, s'achète un costume européen, porte l'impérial, et le père, sans remarquer que le fils a tout de même une tête et veut vivre, et qu'à 20 ans il a plus appris par expérience que lui pendant toute sa vie, le père, horrifié, ne voyant que l'impérial, voyant le fils puiser sans compter dans sa large poche, remarquant enfin que le fils est très indépendant, grogne, se fâche, accuse l'instruction et l'occidentalisme, et principalement est furieux que l'œuf veuille instruire la poule. Mais le fils veut vivre, et il y met tant de hâte qu'on réfléchit malgré soi à son jeune élan. Sans doute, il dépense assez gaillardement. Par exemple, voici que la saison d'hiver est terminée et Pétersbourg, du moins d'après le calendrier, appartient déjà au printemps. De longues colonnes des journaux commencent à se remplir des noms de ceux qui partent pour l'étranger. À votre étonnement, vous remarquez aussitôt que Pétersbourg est beaucoup plus dérangé au point de vue de sa santé que de sa poche. J'avoue que quand j'eus comparé ces deux sortes de dérangements, une peur panique me saisit, et à mon imagination apparut non la capitale, mais l'hôpital. Cependant, je compris bientôt que je m'inquiétais en vain et que la bourse du père, provisoirement, serait encore assez large. Vous verrez avec quelle munificence seront peuplées les campagnes. quels costumes extraordinaires traverseront les bosquets de bouleaux, et comment tous seront heureux et contents. Je suis même tout à fait sûre qu'un pauvre hare lui-même deviendra tout de suite content et heureux en regardant la joie générale. Au moins, il verra gratuitement quelque chose qu'on ne peut voir pour aucun prix dans aucune ville de notre grand empire. À propos de pauvre hare, il me semble que de toutes les misères possibles, la plus vilaine, la plus dégoûtante, la plus sale, la plus basse est la misère mondaine, bien qu'elle soit rare. Cette misère qui a dépensé son dernier sou et, par devoir, se montre encore en voiture, couvre de boue le piéton, qui par un honnête travail gagne son pain à la sueur de son front, et malgré tout a des serviteurs en gants blancs et cravate blanche. C'est une misère qui a honte de demander l'aumône et n'a pas honte de l'accepter de la façon la plus insolente. Mais assez sur cette boue. Nous souhaitons sincèrement aux pétersbourgeois de s'amuser à la campagne et de bâiller le moins possible. On sait que le bâillement à Pétersbourg est une maladie comme la grippe, les hémorroïdes ou la fièvre. Maladie dont on se délivre difficilement par n'importe quelle cure, même la cure mondaine. Pétersbourg se lève en bâillant. En bâillant, il accomplit ses devoirs, et en bâillant, il se couche. Mais il bâille surtout dans ses mascarades et à l'opéra. Pourtant, l'opéra est parfait chez nous. Les voix des merveilleux chanteurs sont si sonores, si pures, que déjà on en parle dans tous les autres pays, dans toutes les villes et bourgades. Chacun sait déjà qu'il y a à Pétersbourg un opéra, et chacun nous envie. Cependant, Pétersbourg s'ennuie quelque peu, et à la fin de l'hiver, l'opéra lui devient ennuyeux, comme par exemple le dernier concert. Mais il ne faut pas appliquer cette observation au concert d'Emst, qui a été donné dans un but très charitable. Il est arrivé une étrange histoire. Au théâtre, il y avait une si forte bousculade que beaucoup de personnes, pour sauver leur vie, ont décidé de faire une promenade au jardin d'été, qui, ce jour-là, comme par un fait exprès, était ouvert au public pour la première fois. C'est pourquoi la salle de concert paraissait vide. Mais tout cela n'est qu'un malentendu, pas plus. La caisse pour les pauvres s'est bien remplie. Nous avons entendu dire que beaucoup de gens ont envoyé leur obol et ne sont pas venus au concert, ayant peur de la foule, peur tout à fait naturelle. Vous ne pouvez imaginer, messieurs, quel devoir agréable c'est de parler avec vous des nouvelles de Pétersbourg et de décrire pour vous la vie à Pétersbourg. Je dirais même plus, ce n'est pas un devoir, c'est un grand plaisir. Je ne sais pas si vous comprenez ma joie, mais en vérité, il est très agréable de se réunir, de s'asseoir et de bavarder des intérêts publics. Parfois même, je suis prêt à chanter de joie quand je rentre dans la société et vois des hommes solides, sérieux, très bien élevés, qui se sont réunis, parlent de quelque chose sans rien perdre de leur dignité. De quoi parlent-ils? Ça, c'est une autre question. J'oublie même parfois de pénétrer le sens de la conversation, me contentant du tableau seul. Mais jusqu'ici, je n'ai jamais pu pénétrer le sens de ce dont s'entretiennent chez nous les gens du monde qui n'appartiennent pas à un certain groupe. Dieu sait ce que c'est. Sans doute quelque chose de charmant, puisque ce sont des gens charmants. Mais tout cela paraît incompréhensible. On dirait toujours que la conversation vient de commencer, comme si l'on accordait des instruments. On reste assis pendant 2 heures, et tout ce temps, on ne fait que commencer la conversation. Parfois, tous ont l'air de parler de choses sérieuses, de choses qui provoquent la réflexion. Mais ensuite, quand vous vous demandez de quoi ils ont parlé, vous êtes incapable de le dire. De gants, d'agriculture, ou de la constance de l'amour féminin. de sorte que parfois, je l'avoue, l'ennui me gagne. On a l'impression de rentrer par une nuit sombre à la maison en regardant tristement de côté et d'entendre soudain de la musique. C'est un bal, un vrai bal. Dans les fenêtres brillamment éclairées passent des ombres. On entend des murmures de voix, des glissements de pas. Sur le perron se tiennent des agents. Vous passez devant, distrait, ému. Le désir de quelque chose s'est éveillé en vous. Il vous semble avoir entendu le battement de la vie. Et cependant, vous n'emportez avec vous que son pâle motif, l'idée, l'ombre, presque rien. Et l'on passe comme si l'on n'avait pas confiance. On entend autre chose. On entend, à travers les motifs incolores de notre vie courante, un autre motif, pénétrant et triste, comme dans le bal des Capulet de Berlioz. L'angoisse et le doute rongent votre cœur, comme cette angoisse qui est au fond du motif lent de la triste chanson russe. Écoutez, d'autres sons résonnent. Tristesse et orgie désespérée. Est-ce un brigand qui a entonné là-bas la chanson? Ou une jeune fille qui pleure à leur triste désadieu? Non, ce sont les faucheurs qui rentrent de leur travail. Autour sont les forêts et les steppes de Saratov. Ces jours-ci, c'était la fête du 7e jeudi après Pâques. C'est une fête populaire en Russie. Avec elle, le peuple salue le printemps, et dans toute la terre russe, on tresse des couronnes. Mais à Pétersbourg, le temps était froid et morose, la neige tombait, les bouleaux n'avaient pas éclos leurs bourgeons détruits par la grêle. La journée ressemblait beaucoup à une journée de novembre, quand on attend la première neige. Quand la Neva, gonflée par le vent, hurle et que le vent siffle dans les rues. Il me semble toujours que, par un temps pareil, le pétersbourgeois est fâché et triste, et mon cœur se serre en même temps que mon feuilleton. Il me semble toujours que tous, mécontents, restent à la maison, tantôt potinant, tantôt se querellant avec leurs femmes, tantôt se courbant sur un dossier de l'administration, tantôt jouant toute la nuit au whist, pour s'éveiller le lendemain matin dans un coin solitaire. Il me semble que les passants de la rue se moquent des fêtes et des intérêts publics, que là-bas se mouille ce paysan barbu qui a l'air de se sentir mieux sous la pluie qu'au soleil. Et le monsieur en loutre qui n'est sorti par un temps pareil que pour un bon placement de son capital. En un mot, messieurs, ce n'est pas gai. 15 juin 1847. Juin. La chaleur. La ville est vide. Tous sont à la campagne et vivent des impressions, jouissent de la nature. Il y a quelque chose d'inexplicablement naïf, même quelque chose de touchant dans la nature de notre Pétersbourg, quand soudain, sans qu'on s'y attende, elle montre toute sa puissance, toute sa force, s'habille de verdure, se pare, s'orne et se couvre de fleurs. Je ne sais pourquoi cela me rappelle cette jeune fille maigre, chétive, que vous regardez parfois avec commisération, parfois avec un sentiment de pitié, ou que, parfois, tout simplement, vous ne remarquez pas, et qui soudain, en quelques jours, et comme par hasard, devient merveilleusement belle, et vous étonne et vous frappe. Alors, vous vous demandez, malgré vous, quelle force fait briller cette flamme dans ses yeux toujours tristes et pensifs? Qu'est-ce qui attire le sang à ses joues pâles? Qu'est-ce qui anime de passion les traits doux de ce visage? Pourquoi cette poitrine se gonfle-t-elle ainsi? Qu'est-ce qui a provoqué tout d'un coup la force, la vie, la beauté dans ce visage de femme? L'a obligée à briller d'un sourire pareil, à s'animer d'un rire si séduisant? Vous regardez autour de vous, vous cherchez quelque chose, vous devinez. Mais le moment passe, et demain peut-être rencontrerez-vous de nouveau le même regard triste, pensif et distrait, le même visage pâle, la même soumission et la même timidité dans les mouvements, la fatigue, l'inertie. Une sourde angoisse et même les traces d'un dépit inutile pour l'élan éphémère. Mais à quoi bon les comparaisons? Et qui en veut maintenant? Nous sommes allés à la campagne pour vivre près de la nature, contemplativement, sans comparaison, pour jouir de la nature, nous reposer, paresser, et laisser tous ces soucis inutiles et trépidants dans les beaux appartements, jusqu'en des temps plus propices. J'ai d'ailleurs un ami qui, ces jours-ci, m'a affirmé que nous ne savons même pas être paresseux. Il prétend que nous paraissons lourdement, sans plaisir ni béatitude, que notre repos est fiévreux, inquiet, mécontent, qu'en même temps que la paresse, nous gardons notre faculté d'analyse, notre opinion sceptique, une arrière-pensée, et toujours sur les bras, une affaire courante, éternelle, sans fin. Il dit encore que nous nous préparons à être paresseux et à nous reposer, comme à une affaire dure et sérieuse, et que, par exemple, si nous voulons jouir de la nature, nous avons l'air d'avoir marqué sur notre calendrier, encore la semaine dernière, que tel et tel jour, à telle et telle heure, nous jouirons de la nature. Cela me rappelle beaucoup cet Allemand ponctuel qui, en quittant Berlin, nota tranquillement sur son carnet. En passant à Nuremberg, ne pas oublier de me marier. Il est certain que l'Allemand avait, avant tout, dans sa tête, un système, et il ne sentait pas l'horreur du fait, par reconnaissance pour ce système. Mais il faut bien avouer que dans nos actes, à nous, il n'y a même aucun système. Tout se fait ainsi comme par une fatalité orientale. Mon ami a raison en partie. Nous semblons traîner notre fardeau de la vie par force, par devoir. Mais nous avons honte d'avouer qu'il est au-dessus de nos forces et que nous sommes fatigués. Nous avons l'air, en effet, d'aller à la campagne pour nous reposer et jouir de la nature. Regardez avant tout les bagages que nous avons emportés. Non seulement nous n'avons rien laissé de ce qui est usé, de ce qui a servi l'hiver, au contraire, nous y avons ajouté des choses nouvelles. Nous vivons de souvenirs, et l'ancien potin et la vieille affaire passent pour neuf. Autrement, c'est ennuyeux. Autrement, il faudra jouer au whist avec l'accompagnement du rossignol et à ciel ouvert. D'ailleurs, c'est ce qui se fait. En outre, nous ne sommes pas bâtis pour jouir de la nature. Et en plus, notre nature, comme si elle connaissait notre caractère, a oublié de se parer au mieux. Pourquoi, par exemple, est-elle si développée chez nous l'habitude très désagréable de toujours contrôler, éplucher nos impressions, souvent sans aucun besoin, et parfois même d'évaluer le plaisir futur qui n'est pas encore réalisé, de le soupeser, d'en être satisfait d'avance en rêve, de se contenter de la fantaisie, et naturellement, après, de n'être bon à rien pour une affaire réelle. Toujours nous froisserons et déchirerons la fleur pour sentir mieux son parfum. Et ensuite, nous nous révolterons quand, au lieu de parfum, il ne restera plus qu'une fumée. Et cependant, il est difficile de dire ce que nous deviendrions si nous n'avions pas au moins ces quelques jours dans toute l'année, et si nous ne pouvions satisfaire par la diversité des phénomènes de la nature notre soif éternelle, inextinguible de la vie naturelle, solitaire. Et enfin, comment ne pas tomber dans l'impuissance en cherchant éternellement des impressions, comme la rime pour un mauvais vers, en se tourmentant de la soif d'activité extérieure, en s'effrayant enfin jusqu'à en être malade de ses propres illusions, de ses propres chimères, de sa propre rêverie et de tous ces moyens auxiliaires par lesquels, en notre temps, on tâche, n'importe comment, de remplir le vide de la vie courante incolore. Et la soif d'activité arrive chez nous jusqu'à l'impatience fébrile. Tous désirent des occupations sérieuses. Beaucoup avec un ardent désir de faire du bien, d'être utile. Et peu à peu, ils commencent déjà à comprendre que le bonheur n'est pas dans la possibilité sociale de ne rien faire, mais dans l'activité infatigable, dans le développement et l'exercice de toutes nos facultés. Par exemple, chez nous, y a-t-il beaucoup d'hommes occupés d'une affaire con amore, comme on dit? On dit que nous autres, Russes, nous sommes paresseux par nature, que nous n'aimons pas à nous occuper des affaires, et que si l'on nous y oblige, nous le faisons de telle façon que cela ne ressemble pas à une chose sérieuse. Est-ce vrai? D'après quelle expérience nous attribue-t-on cette qualité nationale si peu enviable? En général, chez nous, depuis quelque temps, on déclame trop sur la paresse, sur l'inaction. On se pousse mutuellement à une activité meilleure et plus utile, et on ne fait que se pousser. Aussi, pour un rien, nous sommes prêts à accuser nos confrères, peut-être simplement parce qu'ils ne ripostent pas trop, comme l'a déjà remarqué Gogol. Mais essayez vous-même, messieurs, de faire le premier pas vers cette activité meilleure et utile. Présentez-la nous sous n'importe quelle forme. Montrez-nous une affaire et principalement intéressez-nous par cette affaire. Laissez-nous l'exécuter nous-mêmes et laissez-nous montrer notre propre capacité créatrice individuelle. Êtes-vous capable de le faire ou non? Non. Alors il n'y a pas à accuser, c'est parler inutilement. Précisément, chez nous, l'affaire vient spontanément. Elle ne trouve point de sympathie dans notre âme. Et ici paraît alors la capacité purement russe de travailler comme par force, de travailler mal, pas honnêtement, et, comme on dit, en rabattant ses manches. Cette qualité caractérise nettement nos mœurs nationales et se montre en tout, même dans les faits les plus minimes de la vie courante. Chez nous, par exemple, il n'y a pas moyen de vivre dans un palais, comme de grands seigneurs, ou de s'habiller comme les gens comme il faut doivent s'habiller, ou comme tout le monde, c'est-à-dire comme très peu de gens. Notre appartement ressemble souvent à une porcherie, et l'habit atteint au cynisme inconvenant. Si un homme n'est pas satisfait, s'il n'a pas la possibilité de montrer ce qu'il y a de meilleur en lui, alors aussitôt il tombe en un état incroyable. Tantôt il devient ivrogne, tantôt joueur effréné aux cartes et aigre-fin. Ou enfin, il devient fou d'ambition et en souffre affreusement. Ainsi, peu à peu, on arrive à la conclusion injuste, presque offensante, mais qui paraît bien vraisemblable, que chez nous, la conscience de notre propre dignité fait défaut, que nous avons très peu de l'égoïsme nécessaire, et enfin, que nous ne sommes pas habitués à faire quelque chose de bien sans récompense. Par exemple, donnez à un Allemand exact, agissant avec système, une affaire tout à fait contraire à ses aspirations et à ses goûts, et expliquez-lui seulement que cette affaire le mènera à quelque chose, le nourrira, par exemple, lui et sa famille, le conduira au but désiré, etc. Immédiatement, l'Allemand se mettra au travail, terminera cette besogne et y introduira quelques nouveaux systèmes particuliers. Mais est-ce bien? Oui et non. Dans ce cas, en effet, l'homme arrive à une autre extrémité effrayante, à l'immobilité flegmatique, qui parfois exclut totalement la conscience de l'homme et met à sa place un système, une obligation, une formule et l'admiration absolue de la coutume ancestrale, bien que cette coutume ne soit plus à la mesure de notre siècle. La réforme de Pierre le Grand, qui créa en Russie l'activité libre, serait impossible avec un élément pareil dans le caractère national, élément qui prend souvent une forme naïve et belle, mais parfois extrêmement comique. on a vu un Allemand rester fiancé jusqu'à 50 ans, donner des leçons aux enfants de propriétaires russes, ramasser un petit pécule et s'unir enfin en union légitime avec sa Minchen, desséchée de cette longue attente, mais héroïquement fidèle. Le Russe ne supporterait point cela. Il cesserait plutôt d'aimer, ou se laisserait entraîner, ou ferait quelque autre chose. Contrairement au proverbe, on peut dire que ce qui est bon pour l'Allemand est mortel pour un Russe. Et y a-t-il beaucoup de Russes parmi nous qui soient capables d'arranger comme il faut les affaires d'amour? Car chaque affaire exige le désir, l'effort de tout l'être. Sont-ils nombreux, enfin, ceux qui ont trouvé leur voie? En outre, il y a des activités qui exigent des moyens préalables, une garantie. Et il est des affaires pour lesquelles l'homme n'a pas de penchant. Il laisse aller et l'affaire sombre. Alors, chez les individus en quête d'activité, mais faibles, efféminés, tendres, naît peu à peu ce qu'on appelle la rêverie. L'homme cesse d'être un homme et devient un être étrange, du genre neutre, un rêveur. Et savez-vous ce que c'est qu'un rêveur? C'est le cauchemar de la vie de Pétersbourg. C'est le péché personnifié. C'est une tragédie sans parole, mystérieuse, sauvage, avec toutes ses horreurs, toutes ses catastrophes et ses péripéties, avec son préambule et son dénouement. Et disons-le, ce n'est pas du tout une plaisanterie. Parfois, vous rencontrez un homme distrait, le regard vague et vitreux, souvent le visage pâle, défait, toujours l'air préoccupé de quelque chose de très pénible, d'une affaire très compliquée. Parfois comme tourmenté, harassé par des travaux difficiles et qui en réalité ne produit absolument rien. Tel est le rêveur extérieurement. Le rêveur est toujours fatigant parce qu'il est inégal à l'extrême. Tantôt trop gai, tantôt trop morne, tantôt grossier, tantôt attentif et tendre, tantôt égoïste, tantôt capable des sentiments les plus nobles. Dans le service, ces messieurs ne valent rien. Et bien qu'ayant un emploi, ils ne sont capables de rien et traînent seulement leur besogne, ce qui en réalité est pire que ne rien faire. Ils ressentent un dégoût profond pour toutes les formalités. Et malgré cela, on peut dire que, parce qu'ils sont toujours doux, dociles, parce qu'ils ont peur qu'on les touche, ils sont eux-mêmes les premiers formalistes. Mais chez eux, ils sont tout autres. La plupart s'installent dans un profond isolement, dans un coin inaccessible, comme pour se cacher des hommes et du monde. Et en général, au premier regard sur eux, on remarque quelque chose de mélodramatique. Avec leurs familiers, ils sont sombres et taciturnes. Ils restent plongés en eux-mêmes. Ils aiment beaucoup tout ce qui est facile, contemplatif, tout ce qui agit tendrement sur les sentiments ou chatouille les sens. Ils aiment lire, et lire n'importe quoi, même les livres sérieux, spéciaux. Mais généralement, à la deuxième ou à la troisième page, ils abandonnent leur lecture dont ils ont assez. Leur fantaisie mobile, volage, facile, est déjà excitée. L'impression est créée, et le monde entier, avec les joies et les douleurs, l'enfer et le paradis, les femmes séduisantes, les actes héroïques, l'activité noble, et quelques luttes gigantesques, et des crimes et des horreurs de toutes sortes, saisit tout d'un coup l'existence entière du rêveur. La chambre disparaît, l'espace aussi. Le temps s'arrête, ou vole si rapidement qu'une heure compte pour une minute. Parfois, des nuits entières passent en des plaisirs indescriptibles. Souvent, en quelques heures, notre rêveur vit le paradis de l'amour, ou une vie entière, formidable, énorme, inouïe, merveilleuse, grandiose et belle. Le pouls bat plus fort, les larmes jaillissent, les joues pâles s'empourprent de fièvre, et quand, dans la fenêtre du rêveur, l'aurore paraît avec sa lumière rose, Il est pâle, malade et heureux. Presque sans conscience, il se jette sur son lit, et en s'endormant, il sent dans le cœur, encore pendant longtemps, une sensation physique, maladive et agréable. Les moments où il a conscience sont terribles. Le malheureux ne les supporte pas, et tout de suite, il prend son poison dont il augmente la dose. De nouveau, un livre, un motif musical, un ancien souvenir, quelque chose de la vie réelle, en un mot, une des mille causes les plus infimes. Et le poison est prêt, et la fantaisie travaille de nouveau sur le canevas capricieux de la douce rêverie mystérieuse. Dans la rue, il marche tête baissée, faisant peu attention aux passants, parfois aussi oubliant tout à fait la réalité. Mais s'il remarque quelque chose, c'est la petite chose la plus banale. Et ce qu'il y a de plus insignifiant, de plus ordinaire, aussitôt prend en lui une couleur fabuleuse. Son regard est déjà fait ainsi qu'il voit en tout des choses fantastiques. Un volet clos au milieu de la journée, une vieille femme estropiée, un homme qui marche à sa rencontre en agitant les bras et parlant à haute voix, comme il y en a beaucoup dans les rues, un tableau de famille à la fenêtre d'une pauvre maison de bois. Tout cela, c'est pour lui presque comme des aventures. L'imagination est montée. Tout de suite naît une histoire nouvelle ou un roman. Parfois, la réalité produit une impression pénible, hostile sur le cœur du rêveur, et il se hâte de s'enfermer dans son cher petit coin doré, qui en réalité est souvent empoussiéré, sale et en désordre. Peu à peu, notre rêveur commence à s'éloigner des gens, des intérêts communs, et imperceptiblement, le sentiment de la vie commune s'émousse en lui. Il lui paraît naturel que les plaisirs que lui procure sa fantaisie soient plus complets, plus beaux, plus charmants que ceux de la vie réelle. Enfin, dans son égarement, il perd tout à fait ce flair moral grâce auquel l'homme est capable d'apprécier la beauté de la réalité, et il laisse échapper les moments de bonheur véritable. Dans son apathie, les mains paresseusement jointes, il ne veut pas savoir que la vie humaine est la contemplation perpétuelle de soi-même dans la nature et la réalité. Il y a même des rêveurs qui fêtent l'anniversaire de leurs sensations fantastiques. Ils ont noté les dates des mois où ils furent particulièrement heureux, où leur fantaisie joua de la façon la plus agréable. S'ils se sont promenés dans telle ou telle rue, ou s'ils ont lu tel ou tel livre, ou vu telle ou telle femme, alors, le jour anniversaire de leur impression, ils tâchent de répéter la même chose, se souvenant, jusque dans les moindres détails, de leur bonheur pourri, impuissant. Est-ce qu'une vie pareille n'est pas une tragédie, une chose épouvantable? N'est-ce pas une caricature? Et est-ce que nous tous ne sommes pas plus ou moins des rêveurs? La vie à la campagne, pleine d'impressions extérieures, la nature, le mouvement, le soleil, la verdure et les femmes, qui en été sont si jolies, si bonnes, tout cela est extrêmement utile pour le Pétersbourg malade, bizarre et morne, où la jeunesse se perd si vite, où les espoirs se fanent si promptement, où la santé se ruine si rapidement, où l'homme se transforme en si peu de temps. Le soleil, chez nous, est un hôte si rare, la verdure une chose si précieuse, et nous sommes si habitués à nos coins d'hiver que les nouvelles habitudes, les changements de lit et de vie, ne peuvent ne point agir sur nous de la façon la plus bienfaisante. Et la vie, elle est si somptueuse et si vide. Bien qu'il y ait des originaux à qui elle plaise l'été plus qu'à toute autre époque. Et puis, notre pauvre été est si court. On ne remarque même pas comment les feuilles deviennent jaunes, les dernières rares fleurs disparaissent, l'humidité et le brouillard arrivent. Et de nouveau, s'installe l'automne malsain, s'ébranle la vie. perspective désagréable, du moins pour le moment.